Chapitre 11. Pas un mot de plus ne fut prononcé, ni d'un côté ni de l'autre, jusqu'à notre retour au château. Miss Halcombe monta aussitôt, en toute hâte, dans l'appartement de sa sœur. Pour moi, je me retirai dans mon atelier, afin de mettre en ordre, avant de les abandonner aux mains d'un autre, tous ceux des dessins de M. Fairley que je n'avais pas encore restaurés et montés à nouveau. Des pensées que j'avais jusqu'alors refoulées, des pensées qui rendaient ma position plus intolérable que jamais, vinrent m'assaillir en foule dans ma solitude. Elle était donc fiancée, et son futur époux se nommait Sir Percival Glyde. Il avait rang de baronnet, et ses domaines étaient situés dans le Hampshire. Il existe en Angleterre des centaines de baronnets, et les grands propriétaires terriens se comptent par douzaines dans le Hampshire. À n'en juger que d'après les lois ordinaires de la probabilité, je n'avais pas l'ombre d'un motif, jusque-là, pour rattacher Sir Percival Glyde aux soupçons exprimés par les questions de la femme en blanc. Et pourtant, entre celle-ci et lui, le lien me semblait formé. Était-ce parce que je l'associais dans ma pensée avec Miss Fairley, Miss Fairley que je ne pouvais plus désormais séparer d'Anne Catherick, depuis le soir où m'avait été révélée leur ressemblance de sinistre augure? Les événements de la matinée m'avaient-ils déjà tellement énervé que j'étais à la merci de tous les présages dont la moindre circonstance fortuite pouvait abuser mon imagination? À ceci, je n'aurais su que répondre. Je sentais seulement que ce qui s'était passé entre Miss Halcombe et moi, pendant que nous revenions du pavillon, m'avait très singulièrement affecté. La prévision de quelque péril impossible à découvrir, caché qu'il était dans les insondables profondeurs d'un avenir inconnu, pesait fortement sur moi. Comme autant de nuages amoncelés sous un ciel obscur, mille doutes assiégeaient ma pensée. Je me croyais déjà lié, peut-être pour jamais, à une série d'événements funestes, chaînes solides que rien ne pourrait rompre, pas même mon prochain départ du Cumberland. Aucun de nous en verrait-il l'issue, l'issue définitivement arrêtée. Si poignante que fût la souffrance produite en moi par le misérable avortement de mon fol amour, elle semblait émoussée, amortie, par l'appréhension dominante de cette obscure menace que le temps tenait suspendue sur nos têtes. Je m'occupais de mes dessins depuis un peu plus d'une demi-heure, lorsque j'entendis heurter à ma porte. Sur ma réponse, elle s'ouvrit, et à ma grande surprise, Miss Halcombe entra chez moi. Elle semblait irritée et troublée. Elle prit une chaise, sans me laisser le temps de la lui offrir, et s'assit à l'instant même fort près de moi. « Monsieur Hartwright, me dit-elle, j'espérais que nous en avions fini, pour aujourd'hui du moins, avec tous ces tristes sujets de notre entretien. Mais il n'en est pas ainsi. Quelques odieuses manœuvres sont mises en jeu pour effrayer ma sœur et la détourner de son prochain mariage. Vous m'avez vu envoyer le jardinier au château avec une lettre dont l'adresse, d'une écriture singulière, portait le nom de Miss Fairley. Certainement. Cette lettre est un écrit anonyme, une ignoble tentative pour faire tort à Sir Percival Glyde dans l'esprit de ma sœur. Elle l'a tellement agité, tellement alarmé, que j'ai eu toutes les peines du monde à lui rendre le calme nécessaire pour qu'elle me permît de quitter son appartement et de venir vous trouver. Je sais bien que ceci est une affaire de famille, pour laquelle je ne devrais pas vous consulter, car vous ne pouvez y prendre aucune part, aucun intérêt. Pardon, Miss Halcombe, je prends la plus vive part, le plus profond intérêt à tout ce qui peut affecter le bonheur de Miss Fairley ou le vôtre. Je suis heureuse de vous entendre parler ainsi. Soit ici, soit ailleurs, vous êtes la seule personne de qui je puisse attendre un bon avis. Pour M. Fairley, dans son état de santé, avec l'horreur que lui inspirent les difficultés et les secrets, quels qu'ils puissent être, il est impossible même d'y songer. Notre pasteur est un homme bon et faible, qui, hors la routine de ses devoirs, n'entend rien à rien. Et nos voisins appartiennent justement à cet ordre de relations vulgairement commodes qu'il n'est pas permis de déranger au moment de trouble ou de péril. Ce que je voudrais savoir est ceci. Dois-je immédiatement prendre toutes les mesures en mon pouvoir pour découvrir l'auteur de la lettre? Dois-je, au contraire, suspendre mes démarches et aller trouver demain l'homme de loi chargé des intérêts de M. Fairley? Toute la question, peut-être fort importante, est de perdre ou de gagner 24 heures. Dites-moi, Monsieur Hartwright, ce que vous en pensez. Si je n'avais déjà été contrainte, dans des circonstances fort délicates, de vous admettre à ma plus intime confiance, peut-être mon isolement même ne m'excuserait-il pas d'avoir recours à vous. Mais les choses étant ce qu'elles sont, et après tout ce qui s'est passé entre nous, je ne dois certainement pas avoir tort d'oublier la date si récente de notre amitié. Elle me passa la lettre, qui, sans autre formule préliminaire, débutait brusquement comme suit. Croyez-vous aux rêves? Je l'espère pour vous. Voyez ce que dit l'Écriture touchant les rêves et leur réalisation. Genèse 11, 8, 12, 25. Daniel 4, 18, 25. Profitez ensuite, avant qu'il ne soit trop tard, de l'avertissement que je vous envoie. La nuit dernière, Miss Fairley, j'ai rêvé de vous. J'ai rêvé que j'étais dans le cœur d'une église, à l'intérieur de la grille où s'agenouillent les communiants. J'étais debout à un des côtés de l'autel. Le prêtre, avec son surplis et son prayer book, était debout à l'autre. Après un laps de temps, sont arrivés vers nous pour remplir les cérémonies du mariage et, descendant de la sacristie, un homme et une femme. La femme, c'était vous. Dans votre belle robe de soie blanche et sous votre long voile de dentelle blanche, vous sembliez si jolie et si parfaitement innocente que mon cœur s'apitoyait sur vous et que les larmes me vinrent aux yeux. Des larmes de compassion, ma jeune dame. Or, le ciel bénit celle-là. Et au lieu de tomber de mes yeux comme celles que chacun de nous verse tous les jours, elles se changèrent en deux rayons de lumière qui, de proche en proche, vibrant toujours plus loin vers l'homme debout avec vous devant l'autel, finirent par toucher sa poitrine. Les deux rayons jaillirent alors en arceaux et formèrent entre lui et moi comme deux arcs-en-ciel lumineux. Mon regard les suivit et pénétra jusqu'au fin fond de son cœur. L'extérieur de l'homme que vous épousiez n'avait rien que d'assez agréable. Il n'était ni grand ni petit, mais peut-être un peu au-dessous de la taille moyenne. Un homme encore agile, actif, d'humeur altière. On lui donnerait environ 45 ans. Il était pâle et avait le front dégarni de cheveux. Mais ceux qu'on voyait sur sa tête, noirs encore, n'étaient mêlés d'aucun fil d'argent. Son menton était rasé. Mais le long de ses joues et sur sa lèvre supérieure, une belle barbe brune poussait librement. Ses yeux étaient bruns aussi, et doués d'un vif éclat. Son nez, parfaitement régulier, n'eût pas mal convenu à une femme. J'en dirais autant de ses mains. De temps en temps, une toux sèche et sifflante venait le déranger. Et quand alors il portait à sa bouche sa main droite, si fine et si blanche, il laissait entrevoir, sillonnant le dos de cette main, la cicatrice rouge d'une ancienne blessure. Mon rêve m'a-t-il bien montré l'homme en question? C'est vous qui le savez, Miss Fairley, et vous pouvez dire si ce rêve m'a trompé ou non. Lisez à présent ce que je vis sous ces beaux dehors. Je vous en supplie, lisez et comprenez. Mon regard suivit les deux rayons de lumière et pénétra jusqu'au fond de son cœur. Ce cœur était noir comme la nuit, et il y était écrit en lettres de flamme, où se reconnaissait la main de l'ange déchu, « Sans pitié, sans remords. Il a jonché de misère les voix de bien d'autres créatures. Il jonchera de misère la voix de cette femme maintenant debout auprès de lui. » Je lus cela. Les rayons de lumière haussèrent alors et passèrent sur son épaule. Là, derrière lui, la tête d'un démon qui riait. Les rayons de lumière changèrent encore de direction et passèrent sur votre épaule. Là, derrière vous, une douce figure d'ange. Elle pleurait. Pour la troisième fois, les rayons de lumière changèrent encore. Ils passaient alors comme un glaive entre cet homme et vous. Puis ils s'élargirent, vous séparant violemment l'un de l'autre. et le prêtre chercha vainement dans son livre les prières du mariage. Elles en avaient été arrachées, et il referma le volume qu'il jeta loin de lui par un geste de désespoir. Moi, je m'éveillais les yeux pleins de larmes, et mon cœur battait, car je crois aux rêves. Croyez-y aussi, Miss Fairley. Dans votre propre intérêt, je vous en supplie, croyez-y comme j'y crois. Joseph et Daniel, et bien d'autres encore, dans l'Écriture, ont interprété les songes. Fouillez le passé de cet homme à la cicatrice avant de prononcer les paroles qui feront de vous sa femme à jamais malheureuse. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous que je vous mets ainsi sur vos gardes. Aussi longtemps que le souffle vital passera dans ma poitrine, je m'intéresserai à votre bonheur. La fille de votre mère a dans mon cœur une place à part, car votre mère fut ma première, ma meilleure, mon unique amie. Ainsi finissait cette missive extraordinaire, qui ne portait d'ailleurs aucune sorte de signature. Rien à conjecturer d'après l'écriture de la lettre. C'était, sur un papier rayé, de ces caractères tremblés, contrariés, qu'on trouve souvent sous le nom de « ronde » dans les cahiers d'écoliers. Ils étaient indécis, peu appuyés, ça et là effacés par des pâtés d'encre, mais à cela près, n'avait rien qui les pût faire reconnaître. Ceci n'est pas la lettre d'une personne illettrée, dit Miss Halcombe. Et il est en même temps bien certain, vu son incohérence, qu'elle n'a pas été écrite par quelqu'un appartenant aux rangs élevés de la société. La phrase relative au costume et au voile de la fiancée, quelques expressions encore çà et là, me semble devoir la faire attribuer à une femme. Qu'en pensez-vous, monsieur Huntwright? Je suis de cet avis. Et non seulement ceci me semble être la lettre d'une femme, mais en même temps d'une femme dont l'esprit doit être dérangé, n'est-ce pas? Dit aussitôt Miss Halcombe. Eh bien, moi aussi j'ai été frappé de la même idée. Je n'ajoutais rien. Tout à l'heure, tandis que je parlais, mes yeux s'étaient arrêtés sur la dernière phrase de la lettre. La fille de votre mère a une place à part dans mon cœur, car votre mère fut ma première, ma meilleure, mon unique amie. Ces paroles et le doute que justement je venais d'émettre sur l'état mental de l'auteur de cette épître, agissant ensemble sur mon esprit, me suggérèrent une idée que j'avais littéralement peur d'exprimer nettement, ou même de nourrir en secret. Je commençais à me demander si mes propres facultés ne couraient pas risque de perdre leur équilibre. N'était-ce pas une sorte de monomanie que de ramener ainsi toute circonstance extraordinaire, toute parole imprévue, à la même source cachée, à la même sinistre influence? Cette fois, je résolus, pour mettre à l'abri et mon bon sens et mon courage, de ne prendre aucun parti qui ne fût basé sur des faits précis, et d'écarter résolument toute tentation qui s'offrirait à moi sous forme de conjecture logique. S'il se présente une chance d'arriver à connaître la personne qui a écrit ceci, dis-je en replaçant la lettre dans les mains de Miss Halcombe, nous ne ferons pas mal de la saisir sans perdre de temps. Nous devrions, j'imagine, questionner de nouveau le jardinier sur la vieille femme qui lui a donné ce message, et partant de là, nous continuerions notre enquête aux environs. Mais d'abord une question. Vous venez de mettre en avant, comme alternative possible, une consultation que vous demanderiez demain au jurisconsulte chargé des intérêts de M. Fairley. Ne pourrait-on recourir à lui un peu plus tôt? Pourquoi pas dès aujourd'hui? Pour nous expliquer ceci, dit Miss Halcombe, il faut entrer, relativement au mariage projeté de ma sœur, dans certains détails que je n'ai pas jugé utile ou à propos de vous faire connaître ce matin. Un des motifs qui amène ici lundi prochain sa Percival Clyde est le désir de faire fixer l'époque de son mariage, jusqu'à présent restée incertaine. Il paraît attacher quelque importance à terminer les choses avant la fin de l'année. Miss Fairley a-t-elle connaissance de ce désir? Demandai-je avec émotion. Elle ne le soupçonne même pas, et après ce qui est arrivé, je ne prendrai pas sur moi la responsabilité de l'éclairer à cet égard. Sir Percival n'a parlé de ses intentions qu'à M. Fairley, et celui-ci, comme tuteur de Laura, m'a dit lui-même qu'il était tout disposé à s'y prêter. Il a écrit à Londres à l'avocat de la famille, M. Gilmore. M. Gilmore se trouve en ce moment à Glasgow pour quelques affaires, et dans sa réponse, il propose de s'arrêter à Limeridge House en retournant à Londres. Il arrivera demain et passera quelques jours avec nous, de façon à ce que Sir Percival ait le temps de plaider sa cause. S'il la gagne, M. Gilmore rentrera dans la capitale, emportant avec lui toutes les instructions nécessaires pour la rédaction du contrat. Vous comprenez maintenant, M. Hartwright, pourquoi j'ai ajourné à demain la consultation légale. M. Gilmore est l'ancien ami, l'ami éprouvé des Fairley depuis deux générations. Plus qu'à tout autre, nous pouvons nous fier à lui. Le contrat. Ce simple mot m'avait plongé dans un désespoir jaloux qui agissait comme un poison sur mes instincts les plus élevés et les meilleurs. Je commençais à penser, pénible aveu que celui-ci, mais je ne dois rien supprimer dans les terribles révélations qui me sont aujourd'hui imposées. Je commençais à penser, dis-je, avec une fièvre d'espérance haineuse, aux vagues accusations que la lettre anonyme faisait peser sur la tête de Sir Percival Glyde. Si ces charges insensées allaient se trouver par hasard étayées de quelque vérité, qu'arriverait-il? Qu'arriverait-il si cette vérité pouvait être établie avant que le fatal consentement eût été donné, avant que les conditions du mariage fussent arrêtées définitivement? J'ai voulu, depuis, me faire cette conviction que l'unique sentiment qui m'anima, en cette circonstance, était un pur dévouement aux intérêts de Miss Fairley. Mais je ne suis jamais parvenu à m'inoculer cette illusion, et je ne dois pas essayer maintenant de l'imposer à d'autres. Ce sentiment dont j'étais animé avait pour origine et pour but une haine effrénée, un désespoir vindicatif contre l'homme destiné à devenir son mari. Si nous voulons découvrir quelque chose, repris-je, obéissant à la nouvelle influence qui agissait sur moi, nous ferions bien de ne pas perdre une minute. Je ne puis donc que vous suggérer de nouveau l'opportunité de questionner encore une fois le petit jardinier et de faire enquête immédiatement après dans tout le village. Pour l'un et l'autre objet, me dit Miss Halcombe en se levant, je crois que je puis vous venir en aide. Partons, monsieur Hartwright, partons de suite et voyons ensemble à faire pour le mieux. J'avais la main sur le bouton de la porte, mais je m'arrêtai tout à coup pour lui adresser avant de partir une question essentielle. Dans un des paragraphes de la lettre anonyme, lui dis-je, se trouve une espèce de signalement très détaillé. Sir Percival Glyde n'y est pas nommé, je le sais, mais cette minutieuse description donne-t-elle de lui une idée approximative? Elle est d'une exactitude parfaite, même en ce qui touche à ses 45 ans. 45 ans, et elle n'en avait pas encore 21. On voit tous les jours des mariages aussi disproportionnés sous ce rapport, et l'expérience a démontré que ces sortes d'unions sont souvent les plus heureuses. Je le savais, et cependant la simple mention de cette inégalité dans leurs âges vint ajouter à la méfiance, à la haine aveugle qu'ils m'inspiraient. Oui, parfaitement exact, continua Miss Halcombe. Même en ce qui touche cette cicatrice à la main droite, résultat d'une blessure qu'il reçut il y a déjà bien des années pendant un voyage en Italie. On ne saurait douter que les moindres détails relatifs à son extérieur ne soient parfaitement connus de l'auteur de la lettre. Si j'ai bonne mémoire, on parle même d'une sorte de toux qui de temps en temps le fatigue. Oui, et ce qu'on en dit est parfaitement exact. Lui-même la traite fort légèrement, bien que ses amis parfois s'en inquiètent. Je suppose que nulle rumeur fâcheuse n'a jamais attaqué sa réputation. Monsieur Hartwright, j'espère que vous n'êtes pas assez injuste pour vous laisser influencer par cette lettre infâme. Je me sentis rougir, car au fond j'avais conscience qu'il en était ainsi. J'espère bien que non, répondis-je, bégayant un peu. Peut-être, au reste, n'avais-je pas le droit de poser cette question. « Je n'ai pas de regret que vous l'ayez posée, me dit-elle, car elle me met à même de rendre justice à la bonne renommée de Sir Percival. Ni moi, ni aucun membre de ma famille, M. Hartwright, n'avons entendu murmurer contre lui la moindre insinuation. Il a été le candidat vainqueur dans deux élections parlementaires vivement contestées, et il est sorti intact de cette double épreuve. En Angleterre, un homme qui a pu faire cela est un homme dont la réputation est solidement établie. » Je lui ouvris la porte sans rien répliquer, et je la suivis au dehors. Elle ne m'avait point convaincu. L'ange lui-même, qui tient les registres du greffe céleste, serait-il descendu d'en haut pour ouvrir son livre devant mes faibles yeux, qu'il ne m'aurait pas convaincu davantage. Nous trouvâmes le jardinier à son travail quotidien. Mais nous eûmes beau le questionner, aucune réponse de quelque valeur ne put être arrachée à l'impénétrable stupidité de ce gamin. La femme qui lui avait remis la lettre était vieille. Elle ne lui avait pas adressé une seule parole. Elle s'en était allée en grande hâte dans la direction du midi. Voilà tout ce que nous pûmes tirer du jardinier. Le village était situé au midi du château. Par conséquent, ce fut vers le village que nous nous rendîmes ensuite. Chapitre 12. Notre enquête à Limeridge fut patiemment suivie dans toutes les directions, et parmi des gens de toute espèce, de toute condition. Mais nous n'en obtînmes rien. Trois des habitants nous affirmèrent, à la vérité, qu'ils avaient vu la femme en question. Mais comme ils ne purent ni en donner le signalement, ni s'accorder sur l'exacte direction qu'elle suivait au moment où, pour la dernière fois, ils l'avaient observée, ces trois brillantes exceptions à la règle d'ignorance ne nous fournirent en réalité aucune assistance particulière. Le cours de nos inutiles investigations finit par nous conduire jusqu'à cette extrémité du village où étaient situées les écoles fondées autrefois par Mrs. Fairley. En passant à côté du bâtiment destiné aux garçons, j'insinuai qu'il serait peut-être bon de questionner le maître d'école, auquel, en vertu de son office, nous devions supposer l'intelligence la moins obtuse de toutes celles de l'endroit. « Je crains bien, dit Miss Halcombe, que le maître d'école se soit trouvé occupé de sa classe justement à l'heure où cette femme a dû, en allant et en revenant, traverser le village. Cependant, il n'en coûte rien d'essayer. » Nous entrâmes dans l'enclos destiné au jeu des écoliers, et en faisant le tour afin de gagner la porte, située à l'autre extrémité du bâtiment, nous passâmes près de la fenêtre qui éclairait la salle d'études. Je m'y arrêtai un moment et je regardai. Le maître d'école, assis dans sa haute chaire et me tournant le dos, paraissait en train de haranguer les élèves, tous groupés devant lui à une exception près. Celle-ci était un petit entêté, à cheveux blonds et presque blancs, debout dans un coin, sur un tabouret, et mis à part comme une brebis galeuse, une espèce de Crusoé en miniature, condamné par voie pénale à vivre seul dans cette manière d'île déserte. La porte, quand nous y parvînmes, était ouverte à moitié, et arrêtée sous le porche, pendant à peu près une minute, nous entendions clairement la voix du maître d'école. « Enfant, disait cette voix, prenez garde à mes paroles. Si j'entends une seule fois encore dans cette école de pareilles balivernes à propos de fantômes, vous vous en trouverez mal tous tant que vous êtes. Des esprits, il n'y en a pas en ce monde. Par conséquent, tout enfant qui croit aux esprits croit en une chose qui ne saurait être. Or, un élève de l'école de Limeridge, croyant à une chose qui ne saurait être, tourne le dos à toute raison, à toute discipline, et s'attire par là un châtiment bien naturel. Vous voyez tous là-bas, sur ce tabouret de punition, Jacob Postlethwaite. Il a été mis en pénitence, non pour avoir dit qu'un esprit lui était apparu hier soir, mais parce qu'il est trop effronté, trop obstiné pour ouvrir l'oreille à la raison, et parce qu'il persiste à dire qu'il a vu l'esprit, bien que je lui ai dit, moi, que pareille chose ne saurait être. Si je ne puis en venir à bout autrement, je prétends débarrasser Jacob Postlethwaite à bon coup de canne de cet esprit qui l'obsède. Que s'il se communiquait, cet esprit, au reste de l'école, eh bien, je pousserais l'exorcisme un peu plus loin, et toujours à coups de canne, je guérirais l'école entière de son obsession. Je crains que nous n'ayons mal pris le temps de notre visite, me dit Miss Halcombe, au moment où, après la magnifique péroraison du maître d'école, elle poussait la porte, me montrant le chemin. Notre apparition produisit sur les écoliers une sensation profonde. Ils paraissaient convaincus que nous étions venus tout exprès pour voir étriller Jacob Postlethwaite. « Allez-vous-en tous dîner, » dit le maître d'école. « Tous, excepté Jacob. » Naturellement, Jacob restera où il est, et l'esprit lui apportera son dîner, si tant est que l'esprit veuille s'en donner la peine. En voyant disparaître à la fois ses camarades et la perspective de son dîner, Jacob perdit quelque chose de sa contenance. Il ôta les mains de ses poches, attacha un long regard sur ses poings fermés, les porta résolument à ses yeux, et une fois là, les y fit tourner comme le pilon tourne dans le mortier, accompagnant ce geste de petits reniflements spasmodiques qui se suivaient à intervalles égaux, signaux intermittents de sa détresse enfantine. « Nous sommes venus ici, Monsieur Dempster, » dit Miss Halcombe, interpellant le maître d'école, « pour vous demander un renseignement. Et nous ne nous attendions guère à vous trouver conjurant en esprit. Que signifie tout ceci? Qu'est-il arrivé ?»« C'est ce petit drôle, Miss Halcombe, qui a mis toute l'école sans dessus-dessous, en déclarant que hier soir, il avait rencontré un esprit, » répliqua le digne instituteur. « Et il persiste encore dans cette histoire absurde, malgré tout ce que je peux lui dire. Voilà qui est extraordinaire, dit Miss Halcombe. Je ne supposais à aucun de vos écoliers assez d'imagination pour voir un fantôme. Ceci ajoute quelque chose véritablement à la tâche, déjà bien assez dure, de former les jeunes intelligences que fournit Limeridge. Je souhaite, Monsieur Dempster, que vous vous en tiriez à votre honneur. D'ici là, je vous dirai, si vous le permettez, pourquoi je suis venu et ce que j'attends de vous. Elle fit ensuite à l'instituteur la question que nous avions déjà posée à presque tous les autres habitants du village. Elle reçut la même décourageante réponse. M. Dempster n'avait pas aperçu l'inconnu sur la trace de qui nous marchions ensemble. « Nous ferions aussi bien de rentrer, monsieur, » me dit Miss Halcombe. « Nous ne trouverons pas, bien évidemment, les indices que nous cherchons. » Elle avait déjà salué M. Dempster et allait quitter la salle d'études lorsque l'attitude désolée de Jacob Postlethwaite, pleurnichant amèrement sur le tabouret de pénitence, attira son attention au moment où elle passait devant lui, et la fit s'arrêter un instant pour lui adresser quelques paroles de consolation. Pourquoi ne pas demander pardon à M. Dempster et ne plus parler du fantôme? « Mais je l'ai vu, le fantôme !» s'obstinait à dire Jacob Postlethwaite, avec un éclat de larmes et des regards tout effarés. « Sottise, vous n'avez rien vu de pareil. Un fantôme. Et quel fantôme à jamais... » « Pardon, Miss Halcombe, » interrompit l'instituteur, tant soit peu déconcerté. « Peut-être vaudrait-il mieux ne pas questionner cet enfant. L'obstination avec laquelle il s'entête dans sa ridicule fable passe vraiment toute croyance, et vous pourriez l'amener, sans qu'il le sût, à... »« À quoi ?» interrompit Miss Halcombe, avec une certaine vivacité. « À blesser, sans le savoir, votre sensibilité, » dit M. Dempster, qui semblait de plus en plus mal à l'aise. « Sur ma parole, M. Dempster, vous faites grand honneur à ma sensibilité en la croyant susceptible d'être blessée par un marmot comme celui-ci. » Se tournant alors vers le petit Jacob, avec une expression de défi railleur, elle entreprit immédiatement de le catéchiser. « Allons, disait-elle, je prétends approfondir toute cette affaire. Quand avez-vous vu l'esprit, méchant garçon ?»« Hier soir, à la brune, » répondit Jacob. « Et c'était hier soir, au crépuscule ? Eh bien, de quelle couleur était-il ? » ?»« Tout blanc, comme sont les esprits, » répondit le voyeur de spectres, avec une confiance au-dessus de son âge. « Et où était-il ? » ?»« Tout là-bas, là-bas, dans le cimetière, là où vont les esprits. »« Là où vont les esprits, et comme sont les esprits. » »« Mais, petit imbécile, ne dirait-on pas que les mœurs et les coutumes des esprits vous sont familièrement connues depuis votre plus jeune âge ? Vous savez en tout cas votre histoire sur le bout du doigt. Probablement vous pourrez me dire maintenant de qui cet esprit était le fantôme. « Eh, mais oui, je le puis, » répondit Jacob, secouant la tête avec une expression de triomphe mélancolique. M. Dempster avait déjà essayé à plusieurs reprises d'intervenir dans ce dialogue entre Miss Halcombe et son élève. Il mit cette fois une certaine résolution à se faire entendre. « Veuillez m'excuser, Miss Halcombe, » dit-il, si je me permets de vous faire observer qu'en questionnant cet enfant, vous n'aboutissez qu'à l'encourager. » L'interrogatoire touche à sa fin, M. Dempster, et une seule réponse me suffira désormais. « Eh bien, » continua-t-elle en se tournant vers l'enfant, « de qui avez-vous vu le fantôme ?»« C'était celui de Mrs. Fairley, » répondit Jacob à demi-voix. L'effet que cette déclaration extraordinaire produisit sur Miss Halcombe justifia pleinement l'insistance que l'instituteur avait mise à ne pas laisser aboutir l'interrogatoire commencé. Elle rougit d'indignation, s'avança sur le petit Jacob avec une soudaineté irritée qui l'effraya et le fit pleurer de plus belle, ouvrit la bouche pour lui parler, se contraignit à l'instant même et, au lieu de l'élève, apostropha le maître. « À quoi servirait, dit-elle, de rendre responsable de ce qu'il peut dire un enfant comme celui-ci ? Je soupçonne fort que cette idée a dû lui être mise en tête par des gens plus âgés que lui. Si donc, monsieur Dempster, certains habitants du village ont oublié le respect et la reconnaissance dus à ma mère par tous et chacun d'entre eux, je m'appliquerai à les découvrir. Puis, si j'ai quelque influence sur monsieur Fairley, ils expieront certainement leurs méfaits. J'espère bien, que dis-je, Miss Halcombe, je suis sûr que vous vous abusez en ceci, répliqua le maître d'école. Il n'y a dans toute cette affaire que la perversité et la folie de ce misérable enfant. Il a vu, ou il a cru voir, dans la soirée d'hier, en traversant le cimetière, une femme en blanc. Cette apparition, réelle ou chimérique, se tenait debout auprès de la croix de marbre qu'il sait, comme le savent tous les habitants de Limeridge, avoir été placée à titre de monument sur la fosse où repose Mrs. Fairley. Ces deux circonstances suffisaient, et de reste, pour suggérer à l'enfant cette réponse qui, à bon droit, vous a semblé choquante. Bien que Miss Halcombe ne parût pas convaincue, elle sentait évidemment que l'interprétation du maître d'école était trop plausible pour qu'on la contredît ouvertement. Aussi se borna-t-elle à le remercier de l'attention qu'il lui avait prêtée et à lui promettre de le revoir quand elle aurait tiré au clair les doutes dont elle l'avait entretenu. Ceci dit, elle prit congé de lui et m'emmena hors de l'école. Du commencement à la fin de cette étrange scène, je m'étais tenu à part, écoutant avec la plus scrupuleuse attention, et tirant moi aussi mes conclusions. Dès que nous nous retrouvâmes seuls, Miss Halcombe me demanda si de tout ce que je venais d'entendre, j'avais pu me former une opinion quelconque. « Une opinion très arrêtée, répondis-je. L'histoire de l'enfant, autant que je puis croire, est basée sur un fait réel. J'avoue que je tiens beaucoup à voir le monument élevé sur la fosse de Mrs. Fairley et à examiner le terrain qui l'avoisine. Vous verrez cette tombe. » Après m'avoir ainsi répondu, et tout en marchant à côté de moi, elle garda un instant le silence, absorbée dans ses réflexions. « Ce qui est arrivé dans cette école, reprit-elle, m'avait si bien fait oublier la lettre que j'ai quelque peine à revenir là-dessus. Ne devons-nous pas renoncer à continuer notre enquête et attendre tout simplement jusqu'à demain pour en confier la suite à M. Gilmore ?»« En aucune façon, Miss Halcombe. Ce qui est arrivé à l'école m'encourage, au contraire, à persévérer dans nos investigations. D'où vient que cela vous encourage ?» Parce que cela vient à l'appui d'un soupçon que j'ai conçu au moment où vous me donniez la lettre à lire. Vous avez eu probablement de bonnes raisons, monsieur Hartwright, pour me dissimuler jusqu'ici ce soupçon. Je craignais, je vous l'avoue, de m'y laisser trop aller. Je le supposais complètement absurde. Je m'en méfiais, comme résultant peut-être de quelque infirmité d'imagination. Il m'est impossible maintenant de l'envisager ainsi. Non seulement les réponses de l'enfant lui-même à vos questions, mais de plus une expression tombée par hasard des lèvres de l'instituteur, tandis qu'il commentait cette histoire, m'ont imposé de nouveau cette idée à mon esprit. Les événements à venir peuvent bien encore, Miss Halcombe, renvoyer cette idée dans le pays des chimères. Mais en ce moment, j'ai la ferme conviction que le prétendu fantôme du cimetière ne fait, avec l'auteur de la lettre anonyme, qu'un seul et même personnage. Elle s'arrêta, pâlit et me regarda en face avec émotion. « Quelle personne ?» Sans le savoir, l'instituteur vous l'a dit. En vous parlant de la mystérieuse figure que l'enfant a vue dans le cimetière, il l'a désignée ainsi, une femme en blanc. « Ce n'est pas Anne Catherick ?»« Si, c'est Anne Catherick. » Elle passa son bras sous le mien et s'y appuya comme près de se laisser tomber. « Je ne sais pourquoi, dit-elle à voix basse, mais dans ce soupçon qui vous est venu, quelque chose me trouble subitement et semble m'ôter toute énergie. Je ressens, ici elle s'arrêta et tâcha d'écarter en riant l'idée qui s'offrait à elle. « Monsieur Hartwright, continua-t-elle ensuite, je vais vous montrer le tombeau et rentrer ensuite immédiatement. Je ne dois pas laisser trop longtemps Laura toute seule. Il vaut mieux que je revienne lui tenir compagnie. » Nous étions, quand elle parla ainsi, près du cimetière. L'église, triste édifice de pierre grisâtre, était située au fond d'un petit vallon, de manière à se trouver abritée contre les vents froids qui balaient de tous côtés cette contrée marécageuse. Se détachant du flanc de l'église, le champ du repos semblait gravir la pente de la colline. Il était entouré d'une muraille peu élevée, en pierre brute, et découvert de tous côtés, si ce n'est à une de ses extrémités, où un petit ruisseau s'écoulait, pour ainsi dire, goutte à goutte, au penchant du coteau pierreux, et où un bouquet d'arbres nains projetait leurs ombres étroites sur un gazon ras et clairsemé. Au-delà du ruisseau et des arbres, et non loin des trois barrières de pierre qui, d'espace en espace, marquaient les entrées du cimetière, s'élevait la croix de marbre blanc, qui distinguait des humbles monuments dispersés autour d'elle, la tombe de Mrs. Fairley. « Je n'ai pas besoin de vous accompagner plus loin, » me dit Miss Halcombe, en me désignant ce tombeau. « Si vous découvrez quelque chose qui vous confirme dans l'idée dont vous m'avez parlé, ne me la laissez pas ignorer. Nous nous reverrons au château. » Elle me quitta. Je descendis aussitôt vers le cimetière et traversai la barrière par laquelle on arrivait en droite ligne au tombeau de Mrs. Fairley. L'herbe qui l'entourait était trop courte et le sol trop dur pour garder aucune trace de pas. Déçu de ce côté, j'examinai attentivement la croix et son piédestal cubique, sur le marbre duquel l'épitaphe était inscrite. La blancheur originelle de la croix était, çà et là, un peu ternie par les taches que la pluie dépose sur le monument. Le piédestal, de même, du côté de l'inscription, sur une bonne moitié de cette face. L'autre moitié, en revanche, attira immédiatement mon attention par l'absence complète de toute souillure, de toute impureté quelconque. En y regardant de plus près, je constatai qu'elle avait été nettoyée, récemment nettoyée, du sommet à la base. Entre la portion ainsi lavée ou grattée et celle qui ne l'était pas encore, la limite se voyait clairement, partout où l'inscription laissait à nu quelque espace de marbre blanc. Elle se voyait aussi nettement qu'une ligne artificiellement tracée. Qui donc avait commencé le nettoyage de ce marbre et qui l'avait laissé inachevé? Je regardai autour de moi, cherchant avec surprise comment cette question pouvait être résolue. Du point où j'étais, on ne voyait pas trace d'une habitation quelconque. Le champ du repos était en son entier abandonné aux morts. Je revins à l'église, dont je fis le tour, et gagnai ainsi le chevet. Je traversai alors le mur de l'enclos par une autre barrière que celle qui m'avait donné accès, et me trouvai au sommet d'un sentier, lequel descendait au fond d'une carrière abandonnée. Un petit cottage, divisé en deux compartiments, s'adossait à une des parois de la carrière, et sur le seuil, une vieille femme était occupée à je ne sais quel blanchissage. J'allai vers elle et entamai une conversation au sujet du cimetière et de l'église. Cette bonne femme était assez bavarde, et dès le début m'informa que son mari cumulait les deux emplois de clerc de paroisse et de fossoyeur. Je vantai ensuite le monument de Mrs. Fairley. La vieille femme, secouant la tête, me dit que je ne l'avais pas vue dans son plus beau. Son mari était chargé d'en avoir soin, mais il avait été si malade et si faible depuis des mois et des mois qu'à peine les dimanches se pouvait-il traîner à l'église pour y remplir ses fonctions. En conséquence, le monument avait été négligé. Maintenant, le digne homme allait un peu mieux et probablement, dans 8 ou 10 jours, se trouverait assez rétabli pour reprendre son travail et nettoyer le tombeau. Ces informations, je les dégageais d'un bavardage assez incohérent et du plus mauvais patois qui se parle dans le Cumberland, ces informations m'apprirent tout ce qu'il m'importait de savoir. Après avoir offert à la pauvre femme une insignifiante rémunération, je revins de suite à Limeridge House. Le nettoyage partiel du monument était, sans nul doute, le fait d'une main étrangère. Combinant ce que je venais de découvrir ainsi avec des soupçons que j'avais conçus en écoutant l'histoire de cet esprit aperçu à la tombée du jour, je n'avais plus besoin de rien pour me confirmer dans la résolution de faire sentinelle ce soir même auprès du tombeau de Mrs. Fairley, d'y retourner au coucher du soleil et de ne pas le perdre de vue jusqu'à ce qu'il fît complètement nuit. Le nettoyage du monument étant resté incomplet, la personne qui l'avait commencé viendrait l'achever très probablement. En revenant au château, j'informai Miss Halcombe du projet que j'avais conçu. Tandis que je le lui expliquais, elle semblait surprise et un peu troublée. Cependant, elle n'y fit aucune objection positive. « J'espère, me dit-elle seulement, que tout ceci n'aura pas mauvaise fin. » Au moment où elle me quittait de nouveau, je l'arrêtai pour lui demander, avec tout le sang-froid dont je pus m'armer, en quel état de santé se trouvait Miss Fairley. Un peu de calme était revenu, et Miss Halcombe espérait la décider à profiter du soleil de l'après-midi pour prendre au dehors quelque exercice. Je revins dans mon atelier pour continuer à remettre en ordre les dessins confiés à mes soins. C'était là une besogne urgente et bien nécessaire, de plus, pour m'aider à détourner mon attention de moi-même et de mon triste avenir. Je suspendais mon travail de temps à autre pour regarder par la croisée et suivre dans le ciel le lent abaissement du soleil vers l'horizon. Dans un de ces moments accordés au loisir, je vis une femme suivre le large sentier sablé qui passait sous la fenêtre. C'était Miss Fairley. Je ne l'avais pas aperçue depuis le matin, et même alors je lui avais à peine parlé. Un autre jour à passer à Limeridge était maintenant tout ce qui me restait, et après cette unique journée, mes yeux ne la reverraient plus jamais. Cette pensée suffisait bien pour me retenir à la fenêtre. Fidèle aux égards que je lui devais, je disposais la jalousie de manière que, levant les yeux, elle ne pût me voir. Mais je ne sus pas me priver du bonheur de laisser mes regards l'accompagner pour la dernière fois, aussi longtemps que durerait sa promenade. Un manteau brun jeté sur une simple robe de soie noire, voilà toute sa toilette. Elle avait sur la tête le même chapeau de paille qu'elle portait le jour où nous nous étions vus pour la première fois. Un voile seulement y était aujourd'hui fixé, qui me cachait son charmant visage. À côté d'elle piaffait un petit lévrier d'Italie, le compagnon favori de ses excursions dans la campagne. Sous l'élégante couverture de drap rouge qui abritait des morsures du vent, la peau délicate de ce gracieux animal. Elle ne semblait pas faire attention à lui. Elle marchait droit devant elle, la tête un peu inclinée, et les bras roulés sous son manteau. Ses feuilles mortes, qui le matin même, alors qu'on m'avait parlé du mariage projeté pour elle, passaient tourbillonnant devant moi, chassées par le vent, tourbillonnaient aussi devant elle, et se dispersaient à ses pieds, tandis qu'elle marchait aux mourantes clartés d'un pâle soleil. Le chien frissonnait et tremblait, frottant ses flancs aux vêtements de sa maîtresse, comme pour réclamer avec impatience quelque signe d'attention, quelque encouragement amical. Mais elle ne songeait pas à lui. Elle marchait et marchait toujours, toujours s'éloignant de moi, toujours soulevant dans sa marche les feuilles mortes du sentier. Et mes yeux restèrent sur elle avec une fixité douloureuse, sur elle qui s'éloignait ainsi, jusqu'au moment où ils cessèrent de la voir et où je demeurai seul avec mon cœur affaissé. Une heure encore me suffit pour achever le travail que je venais de reprendre, et au bout de cette heure, le soleil était couché. Je pris dans le vestibule mon chapeau et mon surtout. Puis, sans rencontrer personne, je me glissai hors du château. Les nuages passaient, rapides et en désordre, du côté du couchant, et un vent glacé soufflait de la mer. Si éloignés que fussent les grèves, le bruit du ressac, passant par-dessus les marécages, arrivait lugubre à mes oreilles au moment où j'entrais dans le cimetière. Pas une créature vivante n'était en vue. L'endroit semblait plus désert que jamais, tandis que, choisissant mon poste, je demeurais au guet, les yeux fixés sur la croix blanche qui dominait la tombe de Mrs. Fairley.